Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground.
Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 20 du podcast Les enfants vont bien. Une famille, c'est trois êtres vivants, un plus petit que les deux autres, qui s'aiment. C'est la vision de Sacha, 9 ans. Et cette définition est si simple, si universelle, sans distinction ni de genre ni de génétique, qu'elle devrait être mentionnée ainsi dans le dictionnaire. Le dénominateur commun est l'amour. Ici, on sait que les familles peuvent être plus larges ou plus raccourcies. Le dénominateur commun n'en est pas moins toujours le même. Clémence a construit sa famille dès sa première rencontre avec Amandine, car cette dernière avait une fille, Gaëlle, issue d'une union précédente. Elle est devenue belle-maman avant d'être maman. Elle a ainsi pu expérimenter cette facette particulière de la maternité qui est commune à de nombreuses familles. À mon micro, elle a évoqué cette découverte, l'amour qu'elle porte à sa belle-fille, le rôle qu'elle s'est composé loin de tout schéma, cette place qu'elle a dû apprivoiser dans la difficulté d'une séparation qui porte les stigmates d'une adoption non prononcée. Je vous mentirais si je vous disais que je ne connais pas Clémence. C'est une amie de longue date que j'ai vue éclore depuis sa rencontre avec Amandine et Gaëlle et plus encore depuis la naissance de leur petite Soline. Si je souhaitais la faire intervenir, c'est parce que je suis témoin de leur quotidien et de la souffrance de leur famille face au fait qu'Amandine ne sera pas reconnue comme étant la deuxième maman de Gaëlle. Je constate l'injustice de la relation de force que peut exercer le parent biologique lors d'une séparation. Et Clémence, comme moi, nous faisons un devoir d'informer sur l'importance de la sécurisation du lien de filiation. Je peux même vous confier qu'elle fait partie des fondements à l'initiative de ce podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonsoir Clémence.
Bonsoir.
Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible et d'avoir répondu présente à mon invitation.
Avec plaisir.
Ça fait très longtemps qu'on se connaît, Clémence, on va pas le cacher parce que notre complicité est quand même assez, je pense, elle se ressemble bien.
Ouais,
ça fait presque,
j'espère aussi.
Ça fait presque 11 ans hein, qu'on se connaît.
Ouais, je crois.
Ouais. Ce soir, j'ai souhaité t'interviewer parce que tu as une composition familiale qui est très particulière et qui, en fait, concerne quand même beaucoup, beaucoup de monde. Et j'avais vraiment à cœur d'aborder ce thème-là. Donc, je vais te demander de te présenter, de me présenter ta famille et de m'expliquer un petit peu ta composition familiale.
Mmh. Ok. Donc, je m'appelle Clémence, j'ai 32 ans. Et dans ma famille, il y a trois personnes. Donc, il y a ma femme, Amandine. Il y a ma belle-fille, Gaëlle, qu'elle a eu donc avec sa précédente épouse, qui va avoir 6 ans dans un mois. Et il y a notre fille, Soline, qui elle a eu 6 mois hier. Voilà.
Et qui est magnifique. Les deux sont magnifiques, hein, mais Soline,
waouh. Elles sont sublimes. Les petites bombes, comme les tiennes.
Oui, comme les miennes, effectivement. Ouais. Elles se ressemblent un peu quand même.
Ouais, quand on les met ensemble, je pense qu'on dirait une fratrie un peu.
Exactement.
Encore plus agrandie.
Exactement. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment vous êtes rencontrée avec Amandine et comment vous avez avancé, notamment dans votre désir de maternité ?
Eh ben, on s'est rencontrés d'une manière assez classique aujourd'hui. On s'est rencontrés sur Internet, voilà, sur un site de rencontre, tout simplement. Mm-hmm. On a commencé à discuter un mercredi matin. J'ai une très bonne mémoire, donc s'il y a trop de détails, tu m'arrêtes.
Aucun problème.
Mercredi matin et le jeudi, donc le lendemain, le soir, on a pris un verre, on est allé au resto et on s'est jamais quitté après ça. Voilà.
Oui, donc effectivement, ça a été une rencontre plutôt assez rapide en soi, mais surtout vous êtes vite trouvé finalement.
Oui. Bah c'est ouais, ça a été assez évident. Je sais pas, je saurais pas expliquer. C'était ouais très c'était rapide, évident. Et très évident quoi.
Mmh. Amandine, t'as parlé de suite de sa précédente union ou pas du tout ?
Ouais, tout de suite. Elle m'a tout de suite dit qu'elle avait une petite fille qui, du coup, à l'époque, avait presque 3 ans. Mmh. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Elle m'a dit assez rapidement qu'elle avait peur que ça l'empêche de rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que, voilà, avoir déjà un enfant, ça peut, pour certaines personnes, être un frein à une relation. Ce que je peux comprendre. Mais ouais, moi ça m'a plu parce que du coup j'ai su que c'était quelqu'un qui était du genre à se lancer, à construire et voilà, le fait en fait je pense que j'avais jamais été avec en couple avec quelqu'un qui me semblait aussi stable, même si du coup elle avait été séparée, enfin mariée, divorcée, etc. Mais pour moi c'était un gage de stabilité. Elle avait déjà un enfant et c'était quelque chose que j'ai adoré. Voilà.
Oui. Après, c'est vrai qu'en général, c'est quand même relativement gage de responsabilité, notamment.
Oui, ça c'est vrai.
Du coup, tu as rencontré Gaëlle rapidement suite à ça ou vous avez pris votre temps et elle te l'a présenté plus tard ?
Elle me l'a présenté assez rapidement. Moi, je ne voulais pas au début. Enfin, je ne voulais pas. Ce n'est pas que je ne voulais pas la rencontrer. Je ne voulais pas la rencontrer aussi vite. Parce que, je ne sais pas, je me suis dit, si ça ne dure pas, même si moi, j'étais assez confiante, mais on ne sait jamais. Hein, c'est pas, voilà. Je ne voulais pas entrer dans la vie de cette petite qui avait 3 ans, qui n'allait pas forcément comprendre quelqu'un qui arrive, une nouvelle amoureuse pour maman, qui peut-être s'en va 2-3 mois plus tard, 1 an après. Moi, ça me semblait... Ben, je trouvais que c'était quelque chose d'important, quoi. C'est pas comme de rentrer dans la vie d'un adulte. Rentrer dans la vie d'un enfant, c'est plus... c'est beaucoup plus important, quoi. C'est quelque chose qui se fait pas à la légère.
Ben, surtout vu le rôle que tu allais y prendre.
En plus, au début, voilà, je ne me projetais pas autant. Hein. C'était le jour où j'ai réalisé que j'étais belle-mère, moi, ça m'a fait, ça m'a fait bizarre. Mais,
oui, tu m'étonnes.
Ouais. Au début, c'était... Ouais, je voulais pas lui faire de mal en... qu'elle ne comprenne pas, en fait. Voilà. Qu'elle ne comprenne pas pourquoi j'arrivais, j'étais pas là. Enfin, voilà, j'avais un petit peu peur de la blesser quelque part, même si je ne la connaissais pas encore. Mmh. Et Amandine n'a pas eu cette peur. Elle, apparemment, ça a été assez évident. Et au contraire, elle a voulu qu'on se rencontre très vite, certainement pour ne pas séparer, pour nous relier dès le départ, je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire exactement comment elle a... penser les choses, mais en tout cas, ouais, elle a voulu que je la rencontre très vite. Et je l'ai rencontrée très vite, ouais. Peut-être 2-3 semaines après, je crois.
D'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle connaît sa fille et qu'elle avait confiance en sa fille, en sa capacité à t'accepter toi dans la vie de sa maman. Et je trouve que c'est vraiment... Alors, je comprends complètement qu'on prenne le temps pour présenter un nouveau conjoint à un enfant. Mais en même temps, c'est aussi un sacré signe de confiance que de présenter tout de suite son enfant à son nouveau conjoint.
Oui, je n'avais pas vu ça comme ça. Mais oui. Effectivement.
Est-ce que tu sais si Amandine, enfin si et comment elle avait préparé le terrain auprès de Gaëlle ?
Je sais que je suis allée manger chez elle un soir, du coup. Et la petite, elle était toute timide et elle me regardait un peu. Bon, après, elle avait même pas 3 ans, elle parlait pas non plus énormément, etc. Donc c'était un peu... il y avait un échange qui n'était pas forcément verbal, quoi, qui était pas, c'était, on s'est beaucoup observé, je pense, ce soir-là. Et non, je pense qu'au début, elle l'a fait plutôt naturellement. Je pense que je pense pas qu'elle m'ait présentée comme une amoureuse ou quoi. Je me souviens pas, honnêtement. Mais je pense que ça s'est fait plus doucement que ça.
D'accord.
Au début, voilà, je suis venue chez elle. Elles sont venues me voir au travail une fois. Enfin, voilà, on s'est vues de temps en temps. Mm-hmm. Et puis ça s'est fait tout seul parce qu'au final, non, je sais plus. C'est vraiment une très bonne question. Je pense pas qu'elle ait posé les mots tout de suite.
D'accord.
Parce qu'en même temps, ça faisait 2-3 semaines qu'on était ensemble, donc c'était pas non plus.
C'était tout frais.
Voilà, c'était tout frais. Donc je pense qu'elle-même se disait pas forcément les mots, donc elle les a pas forcément dit. À Gaëlle non plus.
D'accord. Ah, elle avait Gaëlle en garde alternée une semaine ou aussi une garde alternée différente ?
Non, c'est juste un week-end sur deux.
D'accord.
Et à l'époque, Gaëlle n'allant pas à l'école encore, elle était trop petite, elle allait chez la nounou et du coup, elle avait juste un week-end sur deux et je crois de temps en temps, quand elle était en vacances, elle la prenait quelques jours, mais sans plus.
D'accord.
C'était pas une garde alternée classique comme on entend.
D'accord. C'est Amandine qui a porté Gaëlle ou c'est sa conjointe ?
Non, c'est son ex-femme qui l'a portée.
Pardon, son ex-femme. D'accord.
Ouais.
Est-ce que Amandine a subi cette garde alternée ou comment ça s'est... Enfin, c'est elle qui l'a décidé ? Comment ça s'est passé en fait ?
Alors encore une fois, j'étais pas là. Hein, c'est pas... Donc je sais pas exactement comment ça s'est mis en place. Je sais juste que comme elles se sont séparées quand Gaëlle avait 8 mois seulement, elle était beaucoup trop petite. Pour avoir une garde alternée, hein. Je sais que avant 2 ans, ils déconseillent totalement de faire des gardes alternées. Donc au début, c'est Amandine qui allait le week-end dans leur ancienne maison s'occuper d'elle. Ça a été comme ça. Et bon, ensuite, Amandine a un travail aussi avec des horaires, avait en tout cas à l'époque un travail avec des horaires totalement irréguliers qui lui permettaient pas de elle-même sur une semaine entière gérer la garde de la petite. Ça, c'était techniquement pas possible. Ouais. Et ensuite, voilà, la petite était dans leur ancienne maison, etc., pour garder une certaine stabilité. Donc, ça s'est fait certainement assez naturellement dans l'intérêt de Gaëlle.
D'accord. Ouais. Et donc, dans votre relation, donc, du coup, Gaëlle est là un week-end sur deux. Vous continuez à construire votre relation. Est-ce que, du fait de la maternité précédente d'Amandine, vous avez rapidement parlé enfant ou pas ? Comment ça s'est déroulé pour vous ?
Je sais que très rapidement, la question n'a pas été de savoir si on aurait un enfant ensemble, mais quand on aurait un enfant ensemble. Voilà, ça a été assez rapide, je pense, aussi. Parce que moi, je savais que je voulais des enfants. Mmh. Au départ, ouais, j'étais totalement contre l'idée de porter un enfant. Oui, je trouvais ça extrêmement bizarre. Hein, tu te souviens de ma tête complètement affolée quand j'ai posé la main sur ton ventre avec Juliette à l'intérieur. Ça m'a complètement traumatisée pendant 3 heures, je crois.
Je me souviens bien.
Voilà, c'était pas du tout mon truc. Mais je savais que je voulais être maman, par contre. Oui. Voilà. Et Amandine, elle est faite pour être maman, de toute façon. Et je le savais déjà, vu que je la voyais avec sa fille, c'était assez évident.
D'accord.
Donc, encore une fois, je pense pas qu'on en ait... Enfin, je pense pas qu'on se soit réellement posé la question. Ça a plutôt été, si on avait un enfant, quand on aura un enfant, ça a plutôt été une sorte de construction comme ça, assez naturelle. Ouais, c'était évident. Sans vraiment des questions qui se posent. Mais c'est un peu le fil rouge de notre relation, j'ai l'impression. Oui, il n'y a pas de question qui se pose en elle-même. Quoi.
C'est, oui, c'est des évidences.
On fait les choses. Ouais.
Donc effectivement, moi je me souviens bien de toi qui me disais que pour toi, le fait de porter un enfant était complètement inenvisageable. Vraiment, ça t'effrayait à l'époque, hein, je me souviens vraiment de ça.
Ouais.
Quel chemin tu as fait, quel chemin vous avez fait pour prendre cette décision-là ?
Alors, pour le coup, ça a été assez tortueux, ça, par contre. Mmh. Alors ça a été peut-être la décision la plus compliquée à prendre dans l'histoire, parce qu'il y avait plein de paramètres qui sont rentrés en compte. Donc, il y avait, de mon côté, il y avait donc mon appréhension, le fait de porter un enfant, la grossesse, etc. Donc, c'était pas quelque chose qui me faisait fantasmer.
Et comment qu'on puisse dire ?
Voilà. Et Amandine, elle n'était pas fan du côté médical, du coup surmédicalisé avec l'insémination. Donc ça, voilà. Du coup, aucune de nous deux courait après la grossesse. Elle est toujours un peu plus âgée que moi, elle a 3 ans et demi de plus. Donc au début, on s'est dit, pourquoi pas commencer par elle, parce que si elle a vraiment envie de porter un enfant, ce serait dommage qu'elle soit ensuite trop âgée pour que ça fonctionne. Ça, c'était une réflexion, mais en même temps, on s'est dit, ouais, mais moi, je suis plus jeune, du coup, ça fonctionnera peut-être mieux. Donc pourquoi pas commencer directement avec celle avec laquelle ça peut le mieux fonctionner. C'était deux...
Parce que du coup, Amandine, elle a pour projet peut-être plus tard de porter un enfant ou pas du tout ?
Je pense pas.
D'accord.
Je pense pas. Pour l'instant, là, aujourd'hui, non. Après, c'est toujours des choses, quelque chose qui lui vient en tête de temps en temps, quoi. C'est une idée, elle est curieuse, je pense, de voir ce que ça donnerait. Elle est curieuse plus qu'autre chose. Voilà. Mais c'est pas un besoin fondamental pour elle.
D'accord. Oui, donc du coup, en plus de ça, avec la surmédicalisation, effectivement, de la conception, ça fait, s'il n'y a pas une vraie volonté.
C'est d'accord. Ça. Il faut vraiment vouloir, je pense, pour s'infliger, entre guillemets, tout ça, quoi. Et voilà, donc il y avait ça, ces éléments qui sont à peu près, je pense, communs à un peu tous les couples, au final, des questions un peu d'âge, de volonté, etc. Et puis il y avait un autre élément qui était un peu plus important, c'est que dans sa famille, il y a une maladie génétique. Elle a une de ses sœurs qui a le syndrome d'Usher. C'est une maladie génétique orpheline, très peu connue, mais qui est dégénérative et qui amène à la surdité et la cécité.
Ah oui, c'est dur ça.
Oui, c'est quelque chose d'assez, d'assez violent comme maladie. Donc forcément, Amandine, elle, il y avait à peu près une chance sur deux, parce qu'elle n'est pas malade, mais une chance sur deux d'être porteuse saine de cette maladie.
Donc elle peut transmettre.
Donc elle peut totalement transmettre ce gène à un enfant qui pourrait être lui-même porteur sain, voire malade si jamais le donneur était lui-même porteur sain.
Voilà. D'accord, parce qu'il faut que les deux parties présentent la dégénérescence.
C'est ça
se dit comme ça ?
Oui, c'est le même gène atteint par cette maladie. Donc, et c'est pas, forcément pas un test qu'on fait au donneur de sperme, hein, c'est pas quelque chose, c'est une maladie orpheline, donc forcément c'est pas testé. Je connais pas les questionnaires qu'ils soumettent au donneur, mais je pense pas que ce soit une question qu'ils posent. Voilà, dans les questionnaires médicaux, ils posent des questions sur tout ce qui est diabète, antécédents de cancer dans la famille et tout, mais je sais pas si ce genre de maladie est abordé. Voilà. Donc, du coup, avec elle, on prenait éventuellement le risque qu'un enfant soit porteur sain de cette maladie, voire malade, si le donneur avait, par malheur, la même anomalie génétique dans ses gènes. Quoi.
Oui. Après, si elle avait vraiment voulu, vous auriez pu avoir recours au tri des embryons.
Oui. Mais c'est là-dessus, on y a pensé. On s'est posé la question, on s'est dit qu'effectivement, c'était une possibilité. Là-dessus, on a soulevé la question de l'inégalité avec un couple hétérosexuel qui, forcément, dans ce cas-là, en France, a droit, du coup, à une sélection de ses embryons pour être sûr que l'enfant n'est pas malade. Là, nous, effectivement, il faut financer ces analyses qui sont beaucoup plus chères en Espagne ou en Belgique. Voilà, on avait vu les tarifs, je crois que c'était 1 500 € d'analyse, rien que pour... pour voir en termes de gènes, pour voir les problèmes génétiques qui pouvaient se présenter, quoi.
D'accord.
Donc bon, c'est quelque chose qui a pesé dans la balance, quoi. Et à l'époque, on savait pas si Amandine était porteuse saine ou non. Donc on s'était dit qu'on allait attendre qu'elle fasse le test. Et si elle était porteuse saine, de toute façon, elle voulait pas porter, parce qu'elle voulait pas transmettre du tout cette anomalie et on voulait pas se mettre sur le dos les analyses génétiques, alors que moi, je pouvais porter un enfant qui n'aurait pas ce genre de risque. Le fait est qu'on n'a pas réellement attendu qu'elle fasse le test. Elle l'a fait, elle n'est pas porteuse, donc même si elle voulait ensuite porter un enfant, il n'y aurait pas de souci. Mais c'est quelque chose qui a un peu, qui a vraiment influencé notre prise de décision. Et au final, on s'est rendu compte qu'on était peut-être un peu trop, pas trop pressé, quoi. Mais elle a fait le test et on s'est dit que peut-être plus tard, ce serait du coup un sésame pour qu'elle apporte un enfant si elle en a envie par la suite. Mais du coup, on a préféré commencer par moi plus rapidement pour plus de simplicité, pour pas.
Oui. Mais vous ne vous fermez pas la porte, en fait. Si Amandine désire porter un enfant, vous Vous y réfléchirez.
Ah oui, bien sûr. Ça a toujours été... voilà, dès qu'on a décidé qu'on commençait par moi, on a bien dit qu'on commençait par moi. Voilà. Aujourd'hui, on se voit pas forcément avec un troisième. Parce que nous, ça fait pas un deuxième, ça fait un troisième. Hein, parce qu'au quotidien, il faut bien voir les choses avec trois enfants, même si on n'a pas Gaël tout le temps. Il faut quand même planifier sa vie pour trois enfants.
Oui, c'est sûr.
Voilà. Aujourd'hui, c'est pas en question, mais c'est sûr que si demain elle vient me voir en me disant j'en ai envie, j'en ai besoin, on y va. La question se pose même pas.
Oui, c'est ce que je peux comprendre complètement.
À un moment, ça a changé parce qu'elle s'est dit quand même qu'elle aimerait bien voir ce que donnerait un enfant avec son patrimoine génétique. Enfin, ça l'a un peu travaillé. Mm-hmm. Donc, on s'était dit que ce serait plutôt elle. Et moi, à ce moment-là, j'ai senti une petite pointe de...
Un petit pincement au cœur.
De regret. Ouais. Ouais, un petit pincement au cœur en me disant, elle le veut, je la laisse faire. Mais j'ai été un peu déçue à ce moment-là.
D'accord.
Et c'est comme ça que j'ai compris qu'en fait, c'était plutôt ce dont j'avais besoin, finalement, de porter. Mm-hmm. Parce que j'ai senti que j'avais besoin d'être aidée par mon corps, mes hormones, tout ça, pour survivre à cette épreuve, les nuits, etc. D'avoir mon corps qui soit derrière moi. Mm-hmm. Et au final, j'ai eu plutôt raison là-dessus. Je pense que ça m'a bien aidée à survivre au premier temps.
Ce que je peux comprendre. Oui. Enfin, clairement, on a besoin de ça aussi. Quand vous avez réfléchi à la conception donc, de votre enfant, vu que mm-hmm. vous aviez toutes les deux, l'invasivité, on va dire, si on peut dire ça comme ça, mm-hmm. du processus de PMA était quand même relativement effrayante. Pourquoi vous n'avez mm-hmm. pas réfléchi, ou peut-être y avez-vous réfléchi, à une insémination artisanale ?
Non, on n'y a jamais réfléchi. Autant je peux comprendre que certaines personnes trouvent important le fait d'avoir un donneur connu, ou en tout cas... qu'on puisse retrouver, etc., en cas de besoin de l'enfant, autant nous, on s'est dit, c'est nous deux. On fait ça toutes les deux. On ne veut pas connaître le donneur.
Oui, tu voulais pas de tierce personne dans l'histoire.
Non, même si cette personne s'engageait à ne pas intervenir, etc., je pense qu'on aurait toujours eu un petit doute sur le fait qu'il veuille venir dans la vie de cet enfant, et ça... On s'est dit très rapidement qu'on voulait pas de ça. C'était pas... Non.
Ouais, c'était une évidence aussi.
C'était pas envisageable pour nous. Mmh. Ouais, c'était une évidence.
Une fois que vous avez pris cette décision-là, en tout cas de savoir que vous avez finalement décidé qui porterait l'enfant, vous êtes lancé de suite dans le processus, ou vous avez encore mûri ce que vous souhaitiez ?
On a dû attendre quelques mois quand même, 4-5 mois peut-être, avant de réellement appeler une clinique.
D'accord.
Je pense, c'était surtout, je lançais de plus en plus des petites piques en disant, alors quand est-ce qu'on s'y met ? Enfin, c'était un peu, voilà. Elle me répondait avec un sourire, en l'air de dire attends. Mm-hmm. Et puis un jour, je me rappelle très bien, c'était mi-août 2018 à peu près, mm-hmm. elle me dit, ok, on y va, comme ça.
Qu'est-ce qui a été déclencheur alors ?
Alors, pour être honnête, elle a divorcé le mois précédent.
Oui, d'accord. Oui, donc elle n'était pas divorcée.
Non,
d'accord.
Elle n'était pas encore divorcée mmh. quand on s'est rencontrés. Séparée de fait, mais pas divorcée.
D'accord.
Mais je pense qu'au début, il a fallu qu'elle fasse un deuil, du coup, mmh. quand même. Parce que même si elle était déjà séparée, la signature du papier de divorce, ça n'a pas été quelque chose d'évident. Mais voilà, elle a fait un deuil. Ensuite, je pense qu'elle s'est sentie libre de réellement reconstruire quelque chose.
Oui.
Là, je parle un peu à sa place parce qu'elle ne me l'a pas dit ces mots comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti.
Oui, après, c'est sûr que je suppose que engager une nouvelle relation, concevoir un enfant alors que tu n'es pas divorcée, je pense qu'au niveau perception de la partie adverse, ce n'est pas bon, quoi. Je pense que ça pouvait aussi la travailler. Après, je ne parle pas à sa place, hein, mais je me doute que ça peut être problématique. Mmh.
Ouais, moi je pense que ça, il y a des barrières qui sont levées au fur et à mesure, quoi. En tout cas, ça, je pense que c'était une barrière
importante.
En tout cas psychologique. Mm-hmm. Ouais.
Donc mi-août 2018, toi de ton côté, tu savais vers quelle clinique te tourner, tu avais réfléchi, elle peut-être aussi. Comment vous avez fait votre choix de clinique et du pays d'ailleurs ?
On avait quand même regardé un peu ensemble, mm-hmm. parce qu'on en parlait quand même depuis quelques mois assez sérieusement, on avait regardé. Là, rétrospectivement, quand j'y réfléchis pour me préparer à répondre à tes questions, mm-hmm. c'est que c'est vraiment un choix de couple. Parce que Gaëlle était conçue en Belgique, elles ont fait ce choix ensemble, nous on a fait ensemble le choix de l'Espagne.
D'accord.
C'est vraiment, même s'il y avait une personne en commun dans le couple, mm-hmm. dans le choix, on a fait notre choix à nous, quoi. C'est vraiment particulier à chaque couple.
Oui, chaque parcours est particulier et convient à chaque couple, en fait. Il n'y a pas de parcours idéal, en fait. Il y a un parcours qui convient à un couple.
Ouais. Moi, je sais que je voulais l'Espagne parce que j'ai une angoisse des transports en commun, de rater les trains, les avions, tout ça. Rien que pour partir en vacances, ça met dans des états pas possibles. Alors, pour aller faire un enfant,
c'est sûr.
L'idée de rater un avion, d'avoir un horaire, quelque chose comme ça, pour moi, c'était juste impossible. Je ne pouvais pas être sereine s'il fallait prendre un avion, un train ou quelque chose pour aller faire cet enfant.
Ouais. Pour resituer, tu habites Bordeaux, donc du coup, la proximité de l'Espagne en voiture, voilà, il y en a pour quoi ? Vous avez mis 2h30, 3h ?
Ouais, on est allé à Saint-Sébastien. Mm-hmm. Enfin, on est allé à Saint-Sébastien. On devait aller à Saint-Sébastien.
Oui, c'est vrai.
Il y en a pour 2h30 de route.
Ouais. D'accord.
Donc, ça a été le choix assez évident. Et Amandine parlant presque couramment espagnol, ça m'a rassurée sur la barrière de la langue, même si eux-mêmes parlent très bien français. Du coup, il y avait quand même un petit, une facilité dans le fait qu'elle pouvait comprendre aussi quand ils se parlaient en espagnol entre eux. Moi, ça me faisait un peu peur. Donc, les médecins, les infirmières se parlent en espagnol, que je ne comprenne pas. Mmh. Si elles pouvaient quand même saisir les choses, ça me rassurait.
Oui, je comprends complètement. Enfin, moi, c'est ce qui m'a... Ouais. Directement orienté vers les Belgiques parce que j'avais besoin de comprendre ce qui se passait.
Ouais. Ah, si on avait dû passer en FIF, par contre, je pense qu'on aurait filé en Belgique.
Ah, pour quelle raison ?
J'aurais pas voulu... Ben, j'aurais pas voulu avoir quelque chose de médicalement plus invasif dans un pays où je ne parlais pas la langue. L'insémination me semblait assez anodine, on va dire, comme intervention. Mm-hmm. S'il avait dû avoir une anesthésie, des choses plus importantes, ouais, je pense que je serais allée en Belgique.
Oui.
Heureusement, on n'a pas eu en arriver là.
Oui, heureusement. Oui. Et même, enfin, ça a été relativement, sans vouloir spoiler la suite de l'épisode, ça a été relativement simple pour vous finalement. Ouais. Tu disais tout à l'heure donc, que tu aurais dû aller à Saint-Sébastien. Est-ce que tu peux me raconter donc, par quelle clinique vous êtes passé et comment ça s'est passé pour vous ?
Oui, alors on a choisi Ivy parce qu'on avait une amie qui allait à Kéron, je crois, oui. Et on savait qu'avec eux, c'était 2 inséminations dans le week-end, qu'il fallait rester sur place, etc. Mm-hmm. En tout cas, c'est ce qu'elle avait dû faire. Moi, j'ai pas trouvé ça... Je sais pas, ça me plaisait pas. J'aimais l'idée de faire l'aller-retour dans la journée, quelque chose d'assez simple. Mm-hmm. Voilà, dire si ça fonctionne pas sur une insémination, ça sert à rien de refaire une le lendemain, quoi. Pour moi, c'est un cycle, et puis ça doit fonctionner ou pas. Mm-hmm. C'est voilà. Donc on a enlevé cette possibilité là et en fait on a trouvé Ivy assez naturellement. On a eu un premier contact par téléphone. La secrétaire a été adorable, rendez-vous très rapide. Enfin, encore une fois, on s'est posé très très peu de questions. C'est peut-être un peu inconscient des fois, je sais pas, mais on s'est laissé. En même temps, moi, quand je commence à me poser des questions, je m'en pose trop.
C'est vrai que tu as tendance à te poser beaucoup de questions quand tu commences.
Voilà. Donc là, on a filé, et puis je pense que c'est ce qu'il nous fallait, parce que sinon, j'y serais encore. Quoi. Je serais encore en train de me demander est-ce que je fais un enfant ou pas.
Donc c'était évident, efficace, simple. Ouais. Tu as une notion de timing entre août 2018 et ton premier rendez-vous ?
Oui, on a envoyé un mail mi-août. On a eu rendez-vous le 3 septembre.
D'accord.
Très rapide. Il fallait juste faire une sérologie.
D'accord.
Pour être sûr que j'avais pas de maladie sexuellement transmissible, pas de voilà, de gros pépins très rapidement repérables. Et ça a été voilà, très très rapide, un premier examen, juste un rendez-vous, une prise de contact où ils nous ont expliqué comment ça allait se passer. Mmh. Et ensuite, donc premier rendez-vous le 3 septembre et première insémination le 1er novembre.
Oui.
En soi, ça n'a pris que 2 mois, c'est rien du tout. Non. Mais moi, ça m'a semblé une éternité, moi je voulais y aller tout de suite. Je pensais que je pouvais le faire le 15 septembre, quoi. En ayant rendez-vous le 2, je me suis dit c'est bon, le 15, j'y suis. Mais non, bon, il a fallu faire des examens un peu plus sympathiques, du genre l'hystérosalpingographie, que eux font d'office.
D'accord.
J'ai pas entendu parler de ça dans tes précédents podcasts. J'ai pas entendu de.
On le fait en Belgique, c'est. Enfin, moi je sais que j'ai dû la faire. J'ai eu d'autres épisodes sur lesquels effectivement il y en a eu. Mais je ne crois pas que ce soit, enfin, que ce soit systématique.
Ouais, mais ça, chez Ivy, ils la font d'office.
D'accord.
Voilà. On est reparti du premier rendez-vous. Je savais qu'il fallait faire ça et c'est ce qui a pris le plus de temps en fait. Parce qu'il faut se caler sur le cycle, il faut qu'il y ait des rendez-vous au laboratoire, enfin, au cabinet de radio et c'est ce qui a pris le plus longtemps en fait. D'avoir un rendez-vous qui collait. Mais ouais, seulement 2 mois, effectivement.
Et au niveau stimulation, ils fonctionnent comment chez Ivy? Ils stimulent, ils ne stimulent pas?
Alors, ils prennent en fonction de l'âge. Moi, j'ai eu de la chance, c'est que le rendez-vous du 2 septembre s'est bien tombé dans mon cycle. Ils ont pu estimer le nombre de follicules que j'avais. Mm-hmm. Donc, ils savaient que j'avais pas de déficience à ce niveau-là. Du coup, je suis partie d'office avec une petite stimulation. Alors, je me souviens plus trop les dosages. Je sais plus, mais c'est une toute petite stimulation par injection. Donc, on faisait des piqûres. C'était sympa, ça.
Ouais.
Ouais, on a vraiment bien rigolé. La première était un peu stressante, mais ensuite, on a beaucoup rigolé. On en a fait dans des situations assez improbables. Dans la salle de bain de mes beaux-parents, en ayant caché le stylo dans le frigo. Enfin, d'ailleurs, si ma belle-mère m'écoute, elle le sait pas.
D'accord.
Voilà.
Mais c'est vrai que quand on... Enfin, je sais, justement, j'allais te poser la question, notamment de si vous aviez parlé de ton parcours, enfin de votre parcours à votre famille et plus particulièrement à Gaëlle en amont ou pas du tout.
Alors à Gaëlle, non. À la famille, non plus. Mm-hmm. Non. Il y a deux amies, en gros, qui étaient au courant parce qu'il y en a une qui nous a aidé à faire la première piqûre. D'accord. Parce qu'elle savait faire. Mm-hmm. Et l'autre qui était là ce soir-là par hasard et du coup, bah, on l'a mise dans la confidence... Voilà. Mais sinon, non, on l'a dit absolument à personne, on a gardé ça pour nous. Et moi, personnellement, je trouvais ça très important de ne pas le dire à Gaëlle, mm-hmm. parce que autant je savais qu'elle serait ravie d'avoir un petit frère ou une petite sœur, mm-hmm. autant je voulais pas... Moi, je savais que j'allais avoir du mal à vivre la déception si ça ne fonctionnait pas. Mm-hmm. Je voulais pas, même si je me doutais qu'à 5 ans, ce serait pas un drame, un traumatisme incroyable, je voulais pas qu'elle soit déçue, quoi.
Ouais, je comprends.
Et Amandine a été d'accord avec ça. Enfin, c'est elle, la mère, donc celle qui a pris vraiment la décision de ne pas lui dire. Mmh. Mais on a été très d'accord là-dessus. On lui a appris la bonne nouvelle, mmh. pas aux 3 mois. On n'a pas pu attendre, okay. mais on ne lui a pas dit avant.
D'accord.
Non, on ne lui a pas dit avant.
D'accord. Bon, on va revenir sur cette première, ouais. Sur cette première tentative, du coup, sur Ivy. Donc...
Oui, parce qu'on est en PDF.
On est en novembre 2018, du coup. Mmh. Comment ça s'est passé pour toi cette première tentative?
Bah, très bien. On a fait les piqûres comme prévu, à heure fixe. On a fait la stimulation d'Ovitrel 36 heures avant le jour du rendez-vous, donc le 1er novembre à midi. Mmh. La date est très importante, puisque le 1er novembre, bien sûr, est férié en Espagne.
Oui.
Voilà, c'est chouette parce que nous, on n'a pas eu besoin de se justifier au travail. On est parti sur un jour où on ne travaillait pas, donc ça, c'était super, déjà, de ne pas avoir à demander une journée et tout.
Oui,
on a eu de la chance là-dessus. Mais dans mon excitation, moi, en lisant le mail qui nous donnait rendez-vous, je n'ai pas vu qu'il me disait « Ivy Bilbao » et non pas « Ivy Saint-Sébastien », puisque c'était férié, donc ils ouvraient exceptionnellement la clinique centrale à Bilbao pour nous.
Oui, mais en
même temps, et non pas la petite clinique secondaire à Saint-Sébastien.
C'était pas forcément une évidence. Tu vas à Saint-Sébastien, tu t'attends à retourner à Saint-Sébastien.
Oui. Et rétrospectivement, ça semble logique. Un jour férié, elles étaient 3 dans la clinique. Enfin, ils travaillaient pas, quoi,
ouais.
Clairement.
Ouais, d'accord.
Elles sont venues travailler rien que pour nous. Donc ça a été assez rocambolesque, hein, forcément, parce qu'on arrivait à midi moins le quart à Saint-Sébastien. Il a fallu faire 1h30 de route en à peu près 50 minutes.
Ouh.
Parce que bon, moi, j'étais paniquée en me disant que si on arrivait une demi-heure en retard, l'insémination ne fonctionnerait pas. Mmh. Parce qu'il fallait que ce soit... Après, ils nous ont rassurés en disant que non, on n'était pas non plus à ça près. Mais voilà, Amandine a roulé comme une folle. Je crois qu'on était à 150 sur une autoroute à 120. Enfin, ouais. C'était... Voilà, moi, j'avais mal comme pas possible avec la stimulation, la vessie pleine. C'était...
Ouais.
Voilà, j'en ris, mais c'était un moment de grande, grande solitude quand même. On a pris un monsieur espagnol dans la voiture à l'arrière pour qu'il nous guide jusqu'à l'entrée de la clinique parce qu'on ne trouvait pas. Voilà. Ah oui, non, c'était. Et je pense que c'est des moments qui soudent un couple.
Ah oui, je pense. Ouais. Ça fait des souvenirs.
On en rigole beaucoup. Ouais, ça fait des souvenirs, on en rigole beaucoup. Et. Ouais, franchement,
le rodéo de la terre.
C'est ça, c'est ça.
Et alors, cette première insémination, elle a fonctionné, elle n'a pas fonctionné?
Non, elle n'a pas fonctionné.
Aïe. D'accord.
Non, ouais, petite déception, ouais, grosse déception.
Ouais.
Parce que je ne suis pas du genre à me dire, ça fonctionnera au bout de 2-3 fois. Moi, quand je fais quelque chose, c'est pour que ça fonctionne. Donc forcément, ouais, grosse déception. J'ai pris un petit temps de recul. On a laissé passer un cycle avant de redémarrer. Mmh. Et du coup, classiquement, on a laissé passer les fêtes, j'ai bu un peu d'alcool, parce que j'avais arrêté de boire depuis mi-août, moi, en me préparant, en me disant que c'était meilleur pour le corps et tout. Donc, j'ai pris 2-3 cocktails à Noël, j'ai laissé passer tranquillement les choses. Mm-hmm. Et puis, on est reparti mi-janvier, le 16 janvier précisément, à 11h30.
T'as une bonne mémoire.
Voilà. Ouais, une trop bonne mémoire. Voilà, et ça, c'était la deuxième.
D'accord. Je me souviens que tu étais venue me voir sur mon lieu de travail à un moment donné, justement pour me parler de la stimulation et des difficultés que tu avais à te faire prendre en charge la stimulation par la Sécurité sociale en France. Et d'ailleurs, si de mémoire, tu n'avais pas réussi à te la faire prendre en charge, est-ce que tu peux me raconter un petit peu pourquoi ?
Tout simplement parce qu'on n'était pas dans un parcours suivi par l'hôpital. Il nous aurait fallu, en pharmacie, en France, normalement, ils ne délivrent pas ce genre de choses. C'est l'hôpital qui fournit la stimulation aux patientes qui sont suivies au CHU en général. C'est pas quelque chose d'habituel. Mm-hmm. Donc non, il faut payer la totalité de la stimulation. Donc c'est assez cher. Mm-hmm. Pour encore une fois, j'ai une très bonne mémoire, donc j'ai TD. Un stylo de gonal, donc mm-hmm. d'œstrogène en gros, c'est 360 euros.
D'accord, oui, c'est un sacré coût quand même.
Pour un stylo. Ouais, pour 900 unités de produits dedans. Alors nous, on a eu de la chance parce que j'ai eu besoin d'une toute petite stimulation. Donc avec un seul stylo, on a fait 2 inséminations.
D'accord, ok.
On a des amis qui ont eu besoin de 2 voire 3 stylos par tentative.
Waouh!
Parce qu'un peu plus âgé, parce qu'a besoin de plus de stimulation. Donc ça peut monter très très vite.
Oui.
Nous, on a eu, encore une fois, beaucoup de chance.
Oui. Donc on parle bien d'une stimulation par injection.
Oui.
Alors je suppose, et je crois savoir que certaines personnes arrivent à se faire prescrire les stylos, même s'ils ne sont pas dans le cadre d'un parcours PMA, mais par des gynécos qui sont spécialistes en PMA. Sur les stimulations par comprimé, donc, qui sont, je crois, un peu moins puissantes, mais je ne peut pas mettre ma main coupée. Mm-hmm. Par contre, ça, c'est pris en charge par la Sécurité sociale. Ça rentre dans le cadre d'un parcours sans passer par la PMA, mais juste d'un couple qui pourrait avoir des difficultés à concevoir lambda et qui passerait par un gynéco classique en France.
D'accord. Ok. Bon, tu vois, je savais pas. J'ai pas. Moi, j'ai pris l'ordonnance que m'a donnée la clinique espagnole. Mm-hmm. Et ma gynéco, qui pourtant m'a énormément suivie, etc., m'a dit « Je suis désolée, mais ça, je ne peux pas prendre le risque de vous faire une ordonnance là-dessus. C'est pas mon domaine, c'est pas mon travail, et je peux avoir un contrôle. » Pour des sommes pareilles par la Sécurité sociale, elle prenait le risque de se faire contrôler et d'avoir des soucis.
Oui, voilà. Après, moi, je te parle par comprimé, la boîte de Clomid, je crois qu'elle vaut 5 euros. Enfin, et encore, je crois que je suis très haute dans le barème, tu vois. Donc forcément, la Sécu vient pas.
Ça peut être remboursé.
Exactement.
Ouais, c'est pas la...
Et même au-delà de ça, c'est pas quelque chose qui serait dérangeant à payer. La seule chose, c'est que tu as besoin d'une ordonnance pour pouvoir te le faire délivrer. Donc, de toute manière, c'est ordonnance, c'est un remboursement.
Oui. Après, moi, les stylos de gonal, c'est... il n'y a pas forcément besoin d'ordonnance. Hein. J'aurais pu aller décrire ce que je voulais en pharmacie. L'ordonnance espagnole ne valait rien du tout. Hein.
D'accord. Et tu n'as pas eu d'ordonnance ?
Non, je n'ai pas eu d'ordonnance française. Forcément.
D'accord.
Mais j'ai très bien compris. Hein. Moi, j'ai absolument pas obligé ma gynéco. Déjà qu'elle a fait toutes les échographies et tout pour surveiller l'évolution des follicules. Elle a tout fait. Ça a tout été remboursé. Mmh. Franchement, elle a été super là-dessus. On a payé que, entre guillemets, la stimulation. Voilà. Il était hors de question de lui faire prendre quelques risques que ce soit
oui.
sans qu'elle le fasse elle-même.
Oui, tout à fait. Non. Tout à fait. Mmh. Et alors, cette deuxième insémination, comment ça s'est passé ? Pareil, un rodéo PMA ou ça a été beaucoup plus serein ?
Non, beaucoup plus calme. Alors, j'ai bien relu le mail cette fois-ci, hein, forcément, avant de courir. Ils nous ont juste dit que peut-être, vu les résultats, il y aurait un risque de multiples. On a très fort pensé à vous. Et on s'est dit qu'on y allait quand même.
Ah, tu vois ce que ça donne.
Parce que bon, oui, c'est faisable.
Hein. Voilà.
C'est, voilà. Bon, Amandine était beaucoup moins sereine que moi.
C'était, elle avait déjà eu l'enfant. Voilà.
C'est ça. N'ayant jamais eu d'enfant, je me suis dit, oh, mais déjà, c'est chouette. C'est chouette, c'est bien et tout. Ils ont une super relation et tout. J'étais, oh, lui, c'est pas grave, on y va. On y va quand même. Mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'une fois qu'on a fait ça, même s'il y a un risque, entre guillemets, de multiples,
ouais, non,
on y va quand même.
C'est clair. Tu sais à quoi t'attendre de toute manière, en passant par un parcours avec stimulation, si on te prévient, voilà. Quoi.
Mm-hmm. Ouais.
Et alors, le résultat de cette stimulation ?
Et alors, et ben chaque résultat de prise de sang, moi j'ai jamais fait de test de grossesse, j'ai toujours fait une prise de sang, ça me semblait plus fiable. J'ai toujours voulu attendre Amandine, enfin toujours. J'ai toujours voulu attendre Amandine parce qu'il me semblait totalement impensable d'ouvrir ce mail toute seule.
Ouais.
Donc pour le premier résultat, j'ai attendu jusqu'à 21h quand même, hein, 40 ouais, du travail, alors que j'avais le mail depuis 17h dans ma boîte mail.
Oui, je me souviens. Je t'avais admiré d'ailleurs.
Oui, non, mais... Mais en même temps, je ne me serais pas vue pleurer toute seule. Quoi. Pour moi, c'était impensable de faire autrement.
Oui, c'est sûr.
Donc, la première fois, j'ai pleuré toute seule. Et la deuxième fois, bah, on a pleuré de joie, toutes les deux. Voilà. Deuxième réussite.
Waouh, super. Et alors, ça, comment s'est passée ta grossesse? Ta grossesse s'est bien passée? Enfin, est-ce que c'est suite à cette insémination-là que Soline est arrivée?
Oui, ah, oui, super. Oui. Alors, là, il y a eu un petit accident de parcours à un mois et demi de grossesse, le 1er mars. Tu vois. Mm-hmm. une hémorragie, on a pas mal cru la perdre, hein, donc je suis restée alitée, mais elle s'est accrochée. Soline est une petite guerrière. Mm-hmm. Elle est restée avec nous. Et voilà, et elle est née 9 mois, moins 2 jours plus tard. Dans les temps.
Impeccable. Oui, d'ailleurs, ça nous a semblé très très long, hein, je tiens à te le dire quand même.
Oui. Oui. Surtout qu'on a été facile avec personne, on a gardé le secret, on n'a pas voulu savoir si c'était un garçon ou une fille.
Oui.
Donc je pense que ça a rajouté du temps à certaines personnes, notamment aux grands-mères.
Oui, tu m'étonnes.
Bien.
Ouais. Et comment...
J'aurais bien aimé savoir.
Comment vous l'avez annoncé à Gaëlle alors ?
Tout simplement. Un vendredi soir, Amandine allait la chercher à l'école à 4h. Elle l'a ramenée à la maison. On s'est assises toutes les trois dans sa chambre. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré tout ce que j'ai pu. J'étais incapable de lui dire, hein, c'est Amandine qui l'a dit. Mm-hmm. Et voilà, elle lui a dit tout simplement qu'il y avait un bébé dans mon ventre et qu'elle allait être grande sœur.
Voilà. Comment Gaëlle
a été ? Elle a été super contente. Elle était préparée. On savait qu'elle serait contente.
D'accord.
Elle, on avait tâté le terrain, hein. C'est pas non plus. On lui avait demandé si elle aimerait avoir un petit frère, elle voulait une petite sœur. Mm-hmm. Ce qui est chouette, c'est qu'elle s'est pas posé la question de savoir si c'était un petit frère, une petite sœur. On lui a juste dit qu'on savait pas. Mm-hmm. Donc, elle nous a pas tâté. Elle a attendu de savoir, tout simplement. Et ouais, elle était contente, quoi. C'était mon petit frère, ma petite sœur. Enfin, tout de suite, elle s'est approprié le rôle. Elle a passé à peu près 8 mois à répéter « ça, je pourrais le faire, ça, je pourrais pas le faire, ça, je pourrais lui donner », en faisant tout l'inventaire de ses jouets. « Ça, je peux pas lui donner, c'est trop petit. Ça, je peux lui donner, ça, je peux pas.
Enfin, »
C'était adorable, quoi. Hyper investie, alors même qu'elle n'était pas née.
Et toi, comment t'es construit ton rôle de belle-mère au fur et à mesure de ta relation? Puisque donc là, on est 2 ans et demi après le début de ta relation avec Amandine, à peu près.
Ouais, c'est ça. Moi, ça m'a fait bizarre déjà de me dire le mot belle-mère. Enfin, tout de suite, ça semblait très très important, quoi. Très
oui.
Ouais. Moi, clairement, je me suis mis la pression et je me la mets toujours parce que je me dis que voilà, justement, j'ai un rôle à part parce que je suis pas une maman, mais j'ai quand même, quand elle est chez nous, une part à prendre. Pas dans son éducation totale, mais en tout cas dans sa construction, quoi. Donc c'est à la fois génial et flippant, quoi. c'est le mélange des deux, et je pense que c'est la vérité pour à peu près tous les enfants, au final. Parce que je ressens la même chose avec celui maintenant, c'est génial et flippant. Donc, et ouais, ça s'est construit... on s'apprivoise, parce que je pense qu'on a deux caractères très très différents, donc c'est pas évident. Et elle remet en question à peu près toutes mes idées sur l'éducation, en gros. Moi, j'étais très stricte, on fait les choses comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et Amandine m'a appris l'empathie, des choses merveilleuses comme la bienveillance, l'écoute et tout. Et elle m'a bien aidée, elle m'a bien préparée à être maman aussi. Je pense que c'est plus facile grâce à elle. Même si je n'ai pas connu bébé, c'est plus facile grâce à elle.
Oui. Aujourd'hui, tu qualifierais comment ta relation avec Gaëlle ?
J'y réfléchis parce que je me doutais que tu me poserais ce genre de questions. Et honnêtement, j'en sais rien. Il y a beaucoup, beaucoup d'affection. Mm-hmm. Moi, je l'adore. Enfin, c'est voilà, on fait toute notre vie en fonction d'elle. Je veux dire, elle a une chambre. Moi, j'ai acheté mon appartement, j'étais seule. Ma chambre d'amis en un mois, c'est devenu la chambre de Gaëlle. Enfin, c'est, je lui ai fait toute la place que je pouvais lui faire dans ma maison, dans mon cœur aussi. Enfin, c'est une gamine qui est adorable, qui me bouscule parce que, comme je disais, on n'a pas du tout le même caractère. Donc, des fois, elle m'horripile et puis en même temps, enfin, je la trouve adorable. Enfin, c'est
oui, moi, c'est pareil avec ses enfants. Enfin, quand c'était pour propres enfants.
Et c'est vrai que du coup, c'est encore autre chose.
Oui, c'est différent.
C'est encore autre chose. Ouais, je ne saurais pas l'expliquer. C'est un enfant sans être un enfant. Enfin, c'est juste... c'est entre les deux. C'est... Voilà. Mais en même temps, je dis ça maintenant parce que ça fait seulement 3 ans que je la connais. Je pense que dans 15 ans, il n'y aura plus de différence. Quoi. Ouais. Voilà.
Ouais. C'est vrai qu'en plus de ça, tu découvres maintenant la maternité et cet amour inconditionnel qu'on peut avoir pour son enfant. Donc je comprends que tu puisses en tout cas établir une échelle, entre guillemets, hein, si on peut dire, entre ce que tu ressens maintenant pour Gaëlle et ce que tu ressens pour Soline. Mais je suis sûre et je suis convaincue que tout ça va se lisser dans le temps, sans hésitation.
Ouais, et puis je pense que Soline m'a aidée à être plus maternelle envers Gaëlle.
D'accord.
Avant, j'étais plus dans l'éducation. Mm-hmm. Et je me suis découvert avec la naissance de Soline à avoir des petites attentions, à réagir différemment quand elle était malade. Enfin, c'est plus la même chose. Mm-hmm. Ouais, beaucoup plus.
D'accord.
Il y a toujours le côté je cadre, parce que forcément, avec Amandine, quand elles sont tellement contentes de se retrouver, ça part en vrille, hein. C'est du jeu, c'est des bisous, voilà. Bon, bah, je cadre, je mets à table à telle heure et puis j'essaie de rétablir un peu la situation pour pas non plus que ça devienne du grand n'importe quoi et voilà, qu'il y ait toujours un rapport mère-enfant entre elles aussi, que ce soit plus seulement du jeu, qui est encore une autorité de la part d'Amandine parce qu'elle aurait tendance à l'oublier un petit peu parce qu'elle veut tellement profiter d'elle à fond vu le peu qu'elle a.
Oui, parce que du coup, vous l'avez toujours que sur les week-ends?
Un week-end sur deux, toujours. Et la moitié des vacances scolaires, sauf en juillet, juillet-août, on ne l'a que 2 semaines. D'accord. On ne l'a pas tout le mois de juillet, on n'a que 2 semaines en juillet et pas du tout en août.
D'accord. Parce que de mémoire, non, je le sais en fait, je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Amandine a changé de boulot pour avoir justement un rythme de vie plus stable. Ça n'a pas joué sur cette garde-là?
Alors, elle n'a pas changé de travail pour... Enfin, oui, c'est que le rythme de vie n'est pas forcément plus stable. Il est plus cadré parce qu'il y a un emploi du temps prévu à l'avance.
D'accord.
Contrairement à avant, où c'était du jour au lendemain. Mm-hmm. Mais c'est toujours des horaires décalés, c'est toujours un week-end sur deux. Donc, effectivement, elle travaille quasiment tous les week-ends où on n'a pas Gaëlle.
D'accord.
Elle fait des pieds et des mains. Elle a encore passé la journée aujourd'hui à échanger un week-end pour pouvoir être là quand on a Gaëlle. Mm-hmm. Voilà, elle fait tout ce qu'elle peut pour passer le plus de temps avec elle parce qu'on ne l'a vraiment pas beaucoup.
D'accord. Et comment, enfin, alors, je vais pas te demander de parler à la place d'Amandine, mais comment toi tu as le sentiment qu'Amandine vit ça?
Ah bah c'est pas pour rien que c'est moi qui évoque le sujet aujourd'hui et pas elle. C'est quelque chose de très compliqué pour elle. C'est très très douloureux de pas la voir autant qu'elle voudrait, de pas partager son quotidien, de pas l'emmener à l'école, de pas, voilà, c'est bien sûr que c'est très très douloureux. Alors c'est pour ça qu'elle profite. Au maximum.
Oui, ça je peux comprendre, c'est complètement normal. C'est pas quelque chose qui est révisable, au moins pour que vous l'ayez un petit peu plus sur les week-ends, pas sur les week-ends du coup, pardon, mais sur les périodes de vacances scolaires un peu plus peut-être?
Bah, je pense que Gaëlle grandissant, on va essayer de faire en sorte de l'avoir peut-être tout le mois de juillet, même si on ne pourra jamais prendre, enfin en tout cas Amandine, elle avec son travail, ne pourra jamais prendre tout le mois de juillet. Possible.
Oui, ça.
Mais on va essayer, oui, de faire en sorte de l'avoir un peu plus. Avant, elle était trop petite pour être éloignée de sa mère naturelle plus longtemps que 2 semaines.
Oui. Mmh. D'accord.
Voilà, ça a commencé seulement avec l'école, d'ailleurs. Non, d'ailleurs, la première année... Oui, si, la première année, elle avait donc 3 ans. On l'a eu 1 semaine. Et je crois que c'était la première fois qu'elle l'avait autant.
Et Gaëlle, comment elle vit ça, de voir moins Amandine que sa mère biologique?
Alors, jusqu'à 6 mois, elle le vivait, je pense, assez bien. Il y avait quand même, les dimanches soirs où elle était un peu fatiguée, il y avait des pleurs dans la voiture pour qu'elle rentre. Voilà, c'est sûr, hein, Amandine lui manque et elle comprend que c'est pas équilibré. qu'elle la voit beaucoup moins, elle le sait. Alors on lui explique qu'on habite assez loin, parce qu'on est à presque 40 km les unes des autres, que c'est pas possible de l'emmener à l'école en étant aussi loin, et puis enfin voilà, qu'elle a sa maison là-bas, que... Oui, il y a un peu de distance aussi. Ouais. Donc, elle connaît hein, les arguments, etc. Elle sait qu'elle a grandi dans le ventre de son autre maman, donc que c'est pour ça qu'elle reste plus avec elle. Mmh. Alors, effectivement, avec la naissance de Soline, c'est devenu un peu plus compliqué. Mmh. Parce que je pense qu'elle elle ressent le fait que Soline est 100% du temps avec Amandine.
Oui.
Ça, elle ne l'a pas dit, hein, mais bon, ça me semble assez évident. Elle est assez futée pour... avoir fait la déduction, hein, c'est qu'Amandine passe tout son temps avec Soline et que doit y avoir, ouais, une petite, pas forcément une jalousie, mais doit y avoir, elle se rend compte du déséquilibre. Et c'est plus compliqué, la séparation du dimanche soir est plus compliquée depuis la naissance de Soline, effectivement. Je pense qu'il faut qu'elle reprenne un équilibre différent. Même si elle est dingue de sa petite sœur, qu'on essaye de s'occuper d'elle autant qu'avant, même si c'est pas évident, on intègre dans le fait de s'occuper de Soline, elle lui donne à manger maintenant, elle nous aide à changer la couche, elle lui choisit ses habits, on fait tout ce qu'on peut pour l'intégrer, pour pas la mettre de côté. Mm-hmm. Mais le fait est que les séparations du dimanche soir sont un peu plus... voilà, il y a un peu plus de larmes qu'avant, je pense qu'elle va, elle va reprendre un équilibre, et puis ça va passer... avec le temps.
Oui, ça va se tasser. Et puis, si vous arrivez à rééquilibrer un peu cette garde alternée, il y a moyen pour que, enfin, il y a moyen qu'elle ressente cette différence entre guillemets entre de statut en fait, enfin, qui n'en est pas vraiment une, mais qui de fait en est une entre les deux enfants.
Ouais.
Et comment ça s'est passé pour toi l'arrivée de Soline? Ça a été un chamboulement? Enfin, tu t'attendais à ça? Tu t'attendais pas à ça? Est-ce que ça a répondu à tes attentes ou pas?
Ah, c'est mille fois mieux. C'est non, je suis totalement amoureuse de cette gamine. Enfin,
tu t'attendais à ça?
Non, absolument pas. Non, c'est sûr que ouais, c'est pire qu'un tsunami. Enfin, c'est un truc, ça fout ta vie en l'air et ça la fait retomber différemment, quoi. C'est plus du tout la même chose après. Moi, j'ai pris un congé parental. Mm-hmm. Parce qu'on n'a pas trouvé de moyen de garde qui nous satisfaisait. J'aurais dû reprendre le travail en janvier. Mmh. Voilà, je suis jusqu'au bout. Je veux dire, il est hors de question que je la confie à une nounou qui est peut-être très bien, mais qui ne nous correspond pas. Et c'est hors de question. Voilà, on savait même pas, on n'avait même pas calculé financièrement si ça passait ou pas. Rien à faire. J'ai pris un congé parental parce que je ne pouvais pas faire autrement. Donc ouais, je vis à 200% pour elle. Je pense que ça me fera du bien de reprendre le travail aussi pour... voilà, pour retrouver une relation plus... un peu moins fusionnelle, mm-hmm. du coup. Mais je pense que j'en avais besoin aussi. Je dirais jamais le contraire. Non, c'est super fort, même si je pensais pas être du genre à pouponner, et voilà. Il y a des jours où elle me rend folle parce qu'elle pleure, elle fait ses dents, et voilà. Mais c'est... En un sourire, elle a tout fait oublier. Personne ne me fait oublier un énervement aussi rapidement qu'elle. Mm-hmm. Je ne suis pas rancunière, mais je mets du temps à retomber mm-hmm. quand je suis énervée. Avec elle, en deux secondes, c'est parti.
Ouais, c'est la magie, enfant.
Ouais, c'est magique.
Moi, je vais être transparente avec toi. Hein. Je t'ai vu éclore. Mais c'est vraiment ça. Avec la naissance de Soline, je t'ai vu transformée. Complètement transformée. J'avais pas de doute sur le fait que tu serais quelqu'un de très maternel, de très maternante aussi. Je te voyais aussi avec Gaëlle et je voyais bien que tu prenais les choses à cœur. Mais l'arrivée de Soline, je t'ai trouvée... Sincèrement, quand je vois mes autres amies qui ont des enfants, ben, quand je les vois, elles sont fatiguées, comme tout le monde, épuisées, elles sont au bord des larmes, tout ça. Je t'ai trouvée rayonnante. J'ai jamais vu une femme ayant un enfant en bas âge, en si petit, aussi rayonnante que toi.
Alors, attends, on va remettre les choses en l'ordre. Elle a fait ses nuits à 7 jours.
Oui, certes. C'est une chance.
Tu enlèves pas mal de fatigue. Oui. Elle nous a dormi 7 heures d'affilée au retour de la maternité.
C'est sûr. Mais je t'ai trouvée vraiment rayonnante. Je dis pas au contraire, enfin, toutes mes autres amies qui ont eu des enfants étaient rayonnantes d'amour pour leur enfant, mais clairement, avec cette fatigue, voilà, toi, non, c'était éblouissante.
Bah écoute, je veux bien te croire, hein. Je sais que tu me mens pas, mais je... J'avais pas conscience de pouvoir renvoyer cette image-là.
Ah, si, complètement. Et du coup, moi, personnellement, j'ai trouvé que... Enfin, voilà, je trouve que votre famille est bluffante parce que quand je vois des familles recomposées qui sont si jeunes, entre guillemets, hein, je mets les liens au niveau du temps, hein, c'est pas évident de prendre en main les enfants de quelqu'un d'autre, finalement. Même si ce sont les enfants de ton conjoint ou de ta conjointe, il faut quand même s'apprivoiser, comme tu le dis. Et vous êtes une famille complètement unie. C'est vraiment le mot qui transparaît quand on vous rencontre. Déjà, on fait pas de différence entre les enfants parce que bah, elles se ressemblent quand même relativement. Alors que pourtant, il n'y a aucun lien génétique, mais aucun. Et enfin voilà, vous faites famille unie.
Ouais, bah c'est tout ce que je demande. C'est quand j'étais jeune, je me voyais avoir un enfant, ce qui est le cas. Mais en même temps, je me disais, vaudrait mieux en avoir plusieurs parce que j'ai tellement aimé avoir une petite sœur et je voudrais que mon enfant ait une fratrie.
Ce que je peux comprendre. Ben,
voilà. J'ai un enfant et mon enfant a une fratrie. J'ai fait exactement ce que je voulais. C'est
ça, exactement.
Voilà. Donc, ouais, je pense qu'il y a un équilibre. Je suis contente que ça se voit de l'extérieur, mais je pense qu'il y a un équilibre qui s'est bien trouvé entre nous.
Céline, le petit mois hier, pardon.
Ouais.
6 mois, c'est un cap important chez nous, dans nos familles. Tu vois où je veux en venir. Est-ce que vous êtes lancé dans l'adoption ou pas encore de Soline?
Alors, on a signé le consentement à l'adoption chez un notaire qui, soyons honnêtes, était de très bonne volonté, mais il n'y connaît absolument rien.
Comme d'habitude.
Voilà. Et du coup, bah, elle nous a fait signer un consentement à l'adoption simple.
Oh, ouais.
Et grâce effectivement à toi et en écoutant un de tes podcasts un vendredi matin, puisque Soline ne me laisse pas regarder la télé, je ne la regarde pas, mais elle me laisse écouter des podcasts en prenant mon petit-déj. On a recontacté la notaire et on a signé un deuxième consentement pour une adoption plénière.
Et ça, c'est quand même si...
Et pour l'instant, on en est là.
D'accord.
Ouais. Ah oui, non, mais c'était hors de question. Enfin, on n'a même pas regardé. On voulait tellement signer qu'on a limite pas regardé ce qu'on signait, en fait. On a été bêtes, hein. Voilà, on lui a fait confiance, on a dit pas simple. Elle nous a dit, c'est la même chose, puisque vous n'êtes pas décédé, vous êtes là, l'adoption simple, c'est la même chose. Ok, c'est pas... Allez, on signe. De toute façon, on avait signé quelque chose.
Oui.
Et voilà. Mais on y est retourné. Et on a re-signé. Et elle a admis, effectivement, son erreur. Enfin, son erreur. C'était pas une erreur méchante, hein, mais elle a admis qu'elle s'était trompée, effectivement.
Bon, au moins, j'ai l'impression d'avoir servi à quelque chose. C'est toujours plaisant.
Oui.
Je t'ai pas demandé tout à l'heure parce que donc Amandine a divorcé relativement tard, finalement, par rapport à votre rencontre. C'était dans le but de prononcer l'adoption de Gaëlle ou pas du tout?
Alors, c'est pour ça qu'elle faisait un peu traîner, effectivement. Parce que elle avait encore dans l'espoir d'adopter Gaëlle. Sachant que moi, du coup, en lisant les papiers d'adoption, etc., ils demandent de certifier qu'on n'est pas séparés de fait.
Oui.
Je crois qu'il y a un paragraphe voilà, qui mentionne ça, et donc je pense que même étant séparée, elle n'aurait pas pu l'adopter.
Après, c'est une attestation de l'honneur, donc si tu t'entends avec ta conjointe, ton ex-conjointe.
C'est sûr, mais bon, en l'occurrence... Ouais, c'est quand même une attestation sur l'honneur, un document signé chez le notaire, sachant que en général, le fisc est au courant de la situation séparée de fait. Enfin, fiscalement, on n'est plus rattaché quand on est séparé de fait.
Oui, tout à fait.
Je pense que ça aurait été un peu délicat de mentir sur ce genre de choses.
Oui, tout à fait. Ouais. Donc, elle n'avait pas fait du tout, elle n'avait pas lancé du tout la procédure d'adoption. Bon, en même temps, elle avait que 8 mois hein, à ce moment-là, Gaëlle.
Non, et c'est en partie... principalement pour ça, moi, que je voulais répondre à tes questions, c'est que je me doute qu'il y a des femmes, notamment, hein, des hommes aussi, mais beaucoup de femmes qui vont écouter tes podcasts, qui vont dire « Oui, mais bon, l'adoption, on a le temps, etc., ça va passer. » J'en ai rencontré, des femmes, leur fille avait 2 ans et demi, elles n'avaient pas signé, enfin, elles n'avaient rien fait en termes d'adoption.
Ouais.
C'est génial, parce que elles ont confiance, elles disent « On a le temps, on est ensemble, on s'aime, on fera ça plus tard. » Mais voilà, l'amour n'est pas éternel, beaucoup de monde le prouve. Ouais. Et puis il y a aussi des voitures au coin des rues qui peuvent écraser la mer naturelle, enfin, c'est mon côté pessimiste, mais tout peut arriver, quoi. Enfin, il faut faire l'adoption le plus vite possible. Parce que moi, je vois du coup, voilà, Gaëlle n'a pas été adoptée par Amandine. Aujourd'hui, tu parlais de garde alternée, etc. Il y a un déséquilibre.
Oui.
Il y a un rapport de force dans l'ancien couple qui est totalement déséquilibré. Il y a une mère naturelle et quelqu'un qui n'est rien. À part un pilier émotionnel et un pilier d'amour pour sa fille, elle n'est rien.
Et donc, reconnaissance pour elle, même si, même de coparents finalement, puisqu'elle ne vit plus avec sa fille.
Non, il n'y a rien. Il n'y a strictement aucun lien entre elles.
Au quotidien, ça pèse dans votre, dans l'éducation de Gaëlle, dans les choix que Amandine pourrait faire, ou d'ailleurs ne peut pas faire pour elle.
Bah oui, parce que techniquement, elle ne peut en faire aucun, en fait. Alors, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend des relations qu'on entretient avec son ex-conjoint, ça dépend des caractères, ça dépend des situations professionnelles, ça dépend de milliards de choses. Hein.
Oui, bien sûr.
Dans notre cas, il y a une mère naturelle qui décide de tout, qui a sa fille au quotidien, et une mère sociale qui prend ce qu'on lui donne, tout simplement. Voilà, qui a sa fille quand ça lui est autorisé, qui... Voilà, il n'y a pas de coparentalité du tout.
Et qui finalement, du coup, redoute que tout puisse s'arrêter du jour au lendemain.
Ah bah bien sûr. Après, bon, Gaëlle va avoir 6 ans. Mm-hmm. Même avant d'être maman moi-même, je me doutais bien que sa mère naturelle n'allait pas, aujourd'hui, la détacher totalement d'Amandine. Ce serait lui faire un mal incroyable.
Oui, à la petite. Hein.
Voilà. Oui, à la petite. Ah oui, oui, bien sûr. À Amandine aussi, bien évidemment. Mais la question, c'est la petite. Enfin, pour la mère, en tout cas, c'est sa fille. Et elle ferait un mal incroyable à sa fille en lui interdisant de voir son autre maman. Donc, je pense pas que ça puisse arriver.
Oui.
Ça aurait pu arriver plus tôt, éventuellement. Là, aujourd'hui, non. Donc, j'ai assez confiance là-dessus. Mais elle peut quand même, elle s'est remise en couple aussi. Gaëlle a 2 belles mamans, non pas seulement moi. Elles peuvent très bien décider d'aller habiter à l'autre bout de la France. Et là, aucun juge ne pourra dire que Amandine doit continuer à avoir sa fille. Et ça, c'est un danger incroyable pour une maman. C'est, je le sais, il y a des fois, je le vois en elle, elle a peur de ça. Voilà,
Et tu me disais qu'en plus de ça,
il faut adopter son enfant le plus vite possible. C'est pour ça que nous, on va le faire le plus vite possible avec Soline. On a beau avoir confiance en nous, on va le faire quand même le plus vite possible. C'est hors de question de prendre notre temps là-dessus.
Oui, c'est ce qui est. Enfin, après, c'est sûr qu'on se rend pas compte quand on est dans une relation qui fonctionne. Déjà, on se rend pas compte du bouleversement que peut être un enfant, et donc le couple peut être quand même bien chamboulé à l'arrivée de l'enfant. Et on se rend pas compte non plus du fait que du jour au lendemain, il peut tout se passer finalement. Enfin, on a juste envie d'avoir confiance l'un dans l'autre et pas de se poser plus de questions que ça. Tu me disais il y a pas très longtemps d'ailleurs que Amandine aurait la possibilité de faire reconnaître cette maternité, mais bien plus tard. Il faudrait que ce soit Gaëlle, je crois, qui demande cette reconnaissance. C'est bien ça ?
Alors, on peut avoir recours ensuite à une adoption simple, à sa majorité.
À sa majorité, à la demande de Gaëlle, c'est ça ?
À la demande conjointe, enfin, il faudrait que Gaëlle soit d'accord, bien évidemment. Il y a des conditions, plus de 10 ans d'écart entre l'adoptant et l'adopté, et c'est à peu près tout, je crois. Enfin, c'est vraiment pas à peu près, enfin, en gros, dans le droit français, et c'est là que c'est complètement absurde, n'importe qui peut adopter à peu près n'importe qui, en fait.
D'accord.
Avec la condition d'avoir 10 ans d'écart, il y a des subtilités, hein. J'ai pas encore vraiment approfondi le sujet. Mais c'est un peu ça. Nous, on doit faire des milliers de sang pour adopter l'enfant de notre conjoint, mais en fait, on peut adopter en adoption simple une personne majeure. Donc, c'est le dernier recours. Et ce serait, en gros, seulement une formalité pour que Gaëlle soit héritière, en fait, d'Amandine.
Oui.
Voilà. Ce serait que légalement. Et encore. L'État peut, le jour du décès d'Amandine, demander à Gaëlle de justifier son lien.
Ah oui, quand même. L'adoption simple.
Ouais. D'ailleurs, on prépare. Oui, l'adoption simple. Parce qu'en fait, c'est pour éviter des cas où une personne assez riche voudrait faire hériter, mettons, sa femme de ménage, n'importe quoi, de ses biens sans lui faire payer les 60%.
Oui,
tu vois, enfin, en ayant un pourcentage en fait, de parents à enfants. Voilà, c'est pour éviter la fraude fiscale.
D'accord. En gros.
Et l'État pourrait demander à Gaëlle de justifier son lien, de montrer des photos d'elle ensemble, de prouver des factures, des papiers de la sécu, des choses prouvant qu'elle s'est occupée d'elle.
Oui, tout ce qu'on demande.
Pour le jour où... C'est ça. Mais le jour où Amandine décédera, Gaëlle pourra avoir besoin d'apporter ça pour ne pas avoir à payer les 60% sur sa part d'héritage.
Oui.
C'est extrêmement mesquin, mais c'est... C'est comme ça. Donc, on prépare ce dossier. On a un petit truc où on met tout ce qu'on peut.
Oui.
Tous les papiers à peu près légaux qui rattachent Gaëlle à Amandine depuis sa naissance, tout ce qu'il y a peu. Il n'y a pas grand-chose, hein, parce qu'on ne l'a pas au quotidien et on n'a pas les responsabilités techniquement liées à son éducation, mais on réunit tout ce qu'on peut.
Oui.
Voilà, c'est sa seule chance.
Ouais. C'est relativement lourd au quotidien, parce que, enfin, ne serait-ce que d'avoir à penser à ça, enfin, finalement... La relation, elle est entachée, on va dire, de toutes ces procédures que vous subissez parce que bah, l'adoption n'a pas été faite en temps et en heure. Mais bon, de toute manière, vu les délais, je pense qu'elle n'aurait pas pu être prononcée cette adoption. Mais voilà. Aujourd'hui, c'est un vrai problème, ces 6 mois de délai entre la naissance de l'enfant et le début du process d'adoption.
Ouais. Ah oui, il faudrait de toute façon une reconnaissance dès la naissance, et puis, puis voilà, pour,
une filiation.
Pour éviter toute, ouais, pour éviter toute, tous les risques, en fait, toutes ces choses qui peuvent arriver et qui nous mettent en danger. Bien, moi, mon baby blues, entre guillemets, ma chute d'hormones à la naissance de Soline, s'est fixée là-dessus.
Oui.
Alors, ayant justement cette expérience avec Gaëlle, quand Soline est née, alors moi, j'ai eu quelques petites complications à la suite de couches, etc. Bon, je me suis vue mourir, presque. Mm-hmm. Et je me suis dit, s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que Amandine est dans tout ça, là, à la naissance. Je veux dire, elle avait sa fille dans les bras. Si je meurs en couche, qu'est-ce qui se passe? Enfin, ça a été quelque chose d'assez violent à réaliser.
Ouais, la prise de conscience.
Et j'ai appelé ma mère à 7h du mat, en larmes. En étant toujours à la maternité, hein, en lui disant s'il te plaît, signe un papier qu'on va aller déposer chez le notaire pour attester que s'il m'arrive quelque chose, tu laisseras la garde de Soline à Amandine.
Oui.
Tu te rends compte ce qu'a dû vivre ma mère quand elle a entendu ça.
Oui, j'imagine très très bien. C'est justement ce à quoi je réfléchissais.
Et moi, l'état de détresse dans lequel j'étais pour appeler ma mère pour lui demander ça. Parce que je sais que c'est un danger. L'absence de filiation est un danger pour nos familles. Et c'est... Ouais, c'est violent, quoi.
C'est violent. C'est vraiment violent.
C'est violent. Après, on oublie et on laisse passer le temps. Et du coup, c'est aussi pour ça que je comprends qu'il y a des familles qui mettent du temps à réaliser les adoptions.
Mais c'est surtout...
Mais il ne faut pas.
c'est surtout que je pense que toi, tu avais conscience de ce qui pouvait arriver. La plupart du temps, on se projette pas dans ce sens-là. On peut pas se projeter dans ce sens-là. On fait un enfant. On fait pas un enfant en projetant de se séparer, tu vois.
Donc, ah oui, c'est sûr. Mais en même temps, j'ai oublié les chiffres précis. Il y a à peu près 60% des couples qui se séparent après un enfant qui se séparent dans l'année, quoi. C'est une réalité.
Ça chamboule.
Voilà. Et les couples de femmes ne font pas exception à la règle. Peut-être que les couples d'hommes ne font pas exception à la règle non plus. Ça arrive. Et j'ai vu, il y a quelques années, un reportage, une femme qui avait vu son enfant partir avec sa mère naturelle. Enfin, je ne me souviens pas exactement, mais ça m'avait marqué. Hein. C'était une vraie douleur aussi, elle ne voyait plus son enfant.
Ouais. Je vois très bien le reportage, tu parles.
C'est violent.
Ouais, c'est violent. Ça me touche toujours autant, surtout que pour le coup, je vis ton histoire parce que je te connais et je te côtoie. Et c'est vrai que c'est pour cette raison précisément que j'ai souhaité te faire intervenir sur le podcast, parce qu'aujourd'hui, c'est hyper important d'informer sur ce qui peut arriver et sur l'importance de lancer l'adoption le plus tôt possible, parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre finalement, que ce soit de la part de la vie elle-même ou que ce soit de la part de son conjoint. Même si on a confiance, même si on l'aime, même si l'arrivée d'un enfant, ça chamboule tout.
La séparation aussi, parce qu'on peut se dire, même si on se sépare, on sera assez intelligent pour.
Oui.
Une séparation, ça change une personne. Tout peut arriver.
Complètement.
Il faut se sécuriser. Un enfant, c'est trop, trop important. C'est trop... C'est juste un papier et des démarches à faire, quoi. En soi, c'est rien.
Bah ça, ça coûte rien, enfin, même si c'est un coût. Mais ça, enfin, voilà, c'est rien par rapport à ce que ça peut apporter à l'enfant et au deuxième parent.
Mm-mm. Même dans notre situation particulière, il y aura toujours ce déséquilibre. Enfin, en revenir à l'héritage, etc. Parce que c'est là-dessus que ça va se fixer à un moment. Mm-hmm. Mais le jour où Amandine ne sera plus là, Gaëlle et Soline se rendront compte de la différence entre elles.
Oui.
C'est voilà, c'est assez, c'est triste à dire, hein, mais c'est assez, enfin, j'espère que Gaëlle le prendra pas comme un jugement sur sa valeur, quoi. C'est pas,
oui, c'est vrai,
c'est pas pour ça qu'elle est moins la fille d'Amandine que Soline.
Mmh. Ouais, je pense qu'elle sera voilà, suffisamment, enfin, je souhaite qu'elle soit suffisamment grande pour comprendre à ce moment-là que ce n'est pas sa mère qui a décidé de ça. Et que, en tout cas, à l'époque, la loi était faite comme ça, et qu'elle le subit, et que sa mère l'aura subi, et que tu l'auras subi tout autant qu'elle.
Ça, de toute façon, on lui dira. Hein, on est pour la transparence, l'explication. Elle sait tout. Hein, elle sait comment elle a été conçue. Elle sait pourquoi ses mamans se sont séparées. Elle sait... On lui dit tout. Il n'y a pas de... Y a rien, donc ça continuera à ce sujet-là.
C'est sûr. Oui, c'est très important.
Oui, oui.
Je vais passer sur un sujet plus léger et je vais te poser une question rituelle maintenant. Est-ce que tu penses qu'un enfant peut être heureux avec deux mamans ou avec une maman et une belle maman?
Mais bien sûr, évidemment. Ah oui, il n'y a qu'à voir le sourire de Soline quand Amandine rentre du travail. Il n'y a qu'à voir la joie de Gaëlle quand Amandine va la chercher à l'école. Il n'y a qu'à voir, allez, on va citer un peu tout le monde, la façon dont j'ai pleuré quand Gaëlle m'a ramené un cadeau de fête des pères de l'école.
Oh, c'est trop chou.
Voilà, c'est merveilleux, quoi. On est en train de faire du vide dans l'appart, on jette tout ce qui ne sert à rien. Le lapin en plastique fait avec un cul de bouteille, il est toujours là. Enfin, il s'en ira pas, c'est merveilleux. Et puis ensuite, l'amour d'Amandine pour ses deux gamines, voilà, aucune différence entre les deux, si ce n'est le temps qu'elle passe avec, malheureusement. Mm-hmm. Sinon, bien sûr que oui, j'espère qu'elles sont heureuses, et pour l'instant, je pense pouvoir dire que oui.
En tout cas, moi, c'est ce que je perçois, et je pense que c'est ce que tout le monde perçoit en vous rencontrant. Il n'y a aucun doute là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite?
De réaliser l'adoption de Soline. Mm-hmm. En espérant que ça ne rappelle pas trop Amandine qu'elle n'a pas pu faire celle de Gaëlle, parce que bien sûr, ça restera là. Hein. Quand on fêtera celle de Soline, il y aura une petite amertume. Mm-hmm. Voilà, un petit pincement au cœur, c'est sûr. Et ensuite, pour l'instant, on vit dans un appartement que j'ai acheté toute seule, qu'Amandine s'est énormément approprié, mais peut-être d'acheter ensemble et de vraiment construire un truc à nous. Année 4, quoi. Je pense. Ça va être la prochaine étape.
La prochaine étape.
Une sorte de construction physique pour bien concrétiser tout ça.
Et fêter votre mariage.
Aussi, c'est vrai, parce que Soline a eu 6 mois hier. Soline a eu 6 mois hier, mais on s'est mariés il y a un an, il y a deux jours. Mais voilà.
Oui.
Noce de coton. Pour nous.
Vous êtes mariés pendant la
C'est vrai, tu y as pensé. Mm-hmm. Ouais. Bon, le jour où j'ai eu le droit de remettre le pied par terre après mon invitement. On était à la mairie.
Très important. Toujours, bien sûr, dans l'optique de l'adoption de Soline, on est d'accord. Enfin, bon, même s'il y a de l'amour, j'avais précisé.
Non, on ne s'est pas que c'est par amour. Mm-hmm. On s'est pas que c'est par amour et on s'est marié pour Soline. C'est ce que j'aime à dire.
C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. En tout cas, je te remercie beaucoup, Clémence, de t'être livrée ce soir à mon micro. Je sais que c'est pas simple, que la situation est complexe et que c'est pas évident d'évoquer, notamment quand c'est une relation à quatre, à six, avec les deux enfants. C'était hyper important pour moi qu'on aborde ce thème-là. Ça fait longtemps que je voulais l'aborder. Je t'avais toi en ligne de mire depuis un moment parce que je connais votre histoire et que je sais la difficulté que c'est pour Amandine de se séparer de sa fille 10 jours sur 12, quoi. Voilà. Je te remercie vraiment beaucoup. C'était pas simple pour toi et je pense qu'on a... En tout cas, on va faire parler.
J'espère aussi, en tout cas, que ça pourra peut-être faire se dépêcher un peu certaines personnes qui pensent qu'elles ont le temps. Peut-être qu'elles ont le temps, mais faites-le, quoi. Dépêchez-vous, c'est pas grave. Adoptez vos enfants.
C'est le plus grave.
Je m'en fais mon nouveau credo. Adoptez vos enfants.
Merci Clémence.
Avec plaisir.
À très bientôt.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, et plus particulièrement sur Apple Podcast, afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire, et ainsi, nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram de Clémence et Amandine ainsi que le lien de la clinique par laquelle elles sont passées. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend, you ask me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. Inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I want to feel a little less alone, less alone.
Everyone has that one goal, that thing they want to prove. Not to other people, but to themselves. Then right when you think you could actually do it, cancer. And that goal is still within reach. I would know. I'm about to run my first ever marathon with my two best friends. 3 years after having cancer.
At least we look good in these shorts.
Woo! Let's get it, guys. You, keep making plans.
Visit OhioHealth.com/keepmakingplans to learn more.